Bienvenue au podcast de Trop fort pour la Ligue. Salut fans de football, c'est Sharp et Gas avec vous pour une petite émission pour le Thursday Night Football, le match de l'année, le match le plus attendu de l'année. Les Dolphins rendent visite aux Jags de Jacksonville. Je suis sûr que tu avais encerclé la date sur ton calendrier.
Écoute, avec Gardner Minshew, il faut que tu encercles la date. Gros superstar maintenant de l'NFL, top 5 elite quarterback, puis le choix.
Les Magic Mustache Minshew. Mais pour vrai, on va se le dire, là, avec le stress qu'on a eu de peut-être pas avoir de football, il y a du football le jeudi soir, on se la ferme, on check ce qu'il veut.
N'importe quel match-up, je suis prêt. Là.
Mais j'aime ça un peu le Thursday night. Il y a une game, tu focuses sur la game qui joue. Si tu as des joueurs, tu en as un, peut-être deux, c'est comme plus mollo. On dirait le dimanche, là, il se passe tellement d'affaires, ça prend toute la journée. Jeudi, souvent, c'est bien relax. On regarde la game.
Le dimanche, souvent, c'est Red Zone qui joue en background tout le temps. Check tout le temps les games constamment. Red Zone, Red Zone. Puis donc, ça. Thursday, c'est prime time. Deux équipes à regarder. Moins de joueurs à regarder au niveau fantasy. Mais donc, ça va être une bonne game pareil, je suis sûr, à soir. Même.
C'est sûr que ça va être une bonne game. Tu sais, il y a du talent des deux bords. Je trouve que c'est quand même evenly matched à soir. Puis c'est des équipes avec des gros points d'interrogation. Là. Jacksonville surprend tout le monde à date. Ben oui. Juste par le level of play là, du corps arrière, puis les weapons qu'ils ont, là, le départ de Fournette est comblé par James Robinson, Chark, Keelan Cole, LaVisca Chenault qui rentre comme un rookie. Mais pendant qu'on parle des Jags, ça vient de sortir que DJ Chark dans notre alignement à soir, il est out, il est blessé. C'est une blessure comme au torse puis au dos, c'est pas trop clair, mais pas DJ Chark à soir. S'il y en a qui l'avaient comme wide receiver 2, ça peut faire mal, il faut trouver une autre option rapidement.
Oui, DJ Chark, sûrement qu'elle a peut-être une grosse option ce soir pour Minshew. Puis là, ben, écoute, il y en a d'autres qui vont prendre le dessus. Là.
Tu trouvais comment, toi, le play à DJ Chark versus Keelan Cole? Faut-tu que Keelan Cole, je sais qu'il vole pas mal les targets, qu'il y a plus de targets sur l'équipe. Est-ce que ça te stressait un peu de voir Keelan Cole gober toute la charge de travail ou DJ Chark, c'est juste une question de temps qu'il reprenne son poste?
Ben, je pense que c'est une question de temps qu'il reprenne son poste vraiment de recevoir une numéro 1, mais en même temps, on dirait que c'est ça qui marche à Jacksonville en ce moment, c'est que tout est spread partout. Tu sais, t'as pas nécessairement un gars que tu peux double team tout le temps parce que t'en as d'autres qui vont sortir. Tu sais, si tu regardes la manière qu'il spread la balle sur le terrain, tu sais, t'avais Keelan Cole qui a eu 7 targets sur lui, Chris Conley 7 targets, TJ Shark 4 targets, Tyler Effers 6 targets. Tu sais, on dirait qu'il lance la balle un peu partout, ça regarde la défense sur leur talon un petit peu. Puis t'as des gars qui en prennent avantage. Là.
Yes, que c'est des statistiques de target on point. Ça s'approche.
Big stats guy, big stats guy.
On va en parler plus tard du match de ce soir, puis les joueurs qui sont relevant au fantasy. Avant de faire un recap aussi des matchs de la semaine 2, je veux faire un petit segment. Je veux partir ça avec toi. Un segment qui s'appelle Tu niaises-tu. On s'est chacun choisi un moment Tu niaises-tu de la semaine. Mon moment Tu niaises-tu. Attends un petit peu, on va sortir le banner pour ça. Ça vaut la peine. Je vais partir mon ticker en même temps pour le match de ce soir. Attends, ça, c'est parti. Laisse-moi en trouver. Et voilà. Tu niaises-tu. C'est parti. Une première à trop fort pour la Ligue.
Oh yes.
J'imagine que tu vas deviner c'est quoi mon moment. C'était le fameux onside kick des Cowboys vers les Falcons d'Atlanta. S'il y en a qui sont nouveaux, qui connaissent pas trop le football, on sait qu'il y en a qui suivent la page. Un onside kick. En fait, là, quand on fait des points ou quand on doit dégager à l'autre équipe, on est supposé botter ça à au bout du terrain. Il y a une option qui s'appelle le onside kick. Tu bottes le ballon 10 verges, au moins 10 verges. Ton équipe peut aller récupérer le ballon. Comme ça, tu gardes le ballon et tu continues l'attaque. Voici un petit exemple d'onside kick. Puis à ne pas faire du côté des Falcons d'Atlanta, on regarde ça.
For it to go 10 yards. You can attack it right there. Somebody could have came in and got it. You're just watching it go. Olamide Zaccheaus could have just come see.
Je vais le remettre une deuxième fois, ça vaut la peine. Parce qu'on sait qu'on voit pas bien le ballon au début, là. L'affaire, c'est que le ballon doit franchir 10 verges pour que les Cowboys puissent le ramasser.
Mais exactement.
Les Falcons, dès qu'ils ont accès au ballon, dès qu'ils peuvent le ramasser.
C'est un free ball, là.
C'est leur ballon.
wait for it to go 10 yards. You can attack it right there. Somebody could have came in and got it. You're just watching it go. Olamide Zaccheaus could have just come see.
Hey, cafouillage à part des Falcons. Ultimement, les Cowboys s'en sortent avec la victoire.
Ben oui, puis ce qui est encore plus surprenant, c'est que t'avais Aiden Hurst puis Julio Jones qui faisait juste regarder la balle avancer. Puis t'as le numéro 87. Écoute, j'ai aucune idée c'est qui, là. Mais lui qui était à la balle, quand la balle a frappé à 5 ou 6 verges, là, il l'a regardé rouler, puis il a juste resté à côté. Comme si c'était un punt, puis il ne voulait pas être touché, tu sais. Mais
c'est un manque de préparation, peut-être, un manque de pratique. Je sais que le onside kick, côté défensif, c'est sûrement pas la chose qu'il pratique le plus. Là.
Écoute, c'est quelque chose que tu pratiques quand même, mais je veux dire, d'après moi, c'est juste choke under pressure. Là. Il y a un moment qui a freeze. Écoute, Aiden Hurts qui a regardé la balle, même, je pense que pendant comme 5 secondes, là, elle roulait juste devant lui. Puis, tu sais, c'est des gars d'expérience. Julio Jones, même chose. Mais écoute, un petit brain freeze, man. Puis, les Cowboys en ont profité beaucoup, là.
Il y a comme plusieurs stratégies pour le handside kick. Tu peux le botter comme ça au sol et espérer qu'il fasse une bonne distance, mais en sautant un peu partout pour qu'il revienne vers toi, là, que tes joueurs aient la chance de le prendre. Sinon, il y a le botter dans les airs aussi, un peu, là, qui fait diverge, qu'on espère que les grands, gros joueurs puissent sauter et aller chercher le ballon. En tout cas, si les Falcons avaient récupéré le ballon, je pense qu'on aurait parlé des Cowboys et du botteur en disant quelle beauté épouvantable. Là, au début, ça fait comme 3 verges, là, je pense, puis il roule plus loin. On aurait dit que c'était un mauvais botté, mais là, c'est vraiment les Falcons qui attirent l'attention là-dedans. Oh, fait que ça, c'était un bon moment. Tu me niaises-tu? C'est ce que je me suis dit en regardant ça. De ton côté, ça ressemble à quoi?
Écoute, de mon côté, Tyrod Taylor, le poumon perforé par le médecin de son équipe. Écoute, j'ai jamais vu ça. Là. On le sait tous que les gars ils jouent blessés et que les injections existent, qu'il y a plein de remèdes qui existent. Là. Mais écoute, ça, là, c'est une erreur grave. Puis juste avant la game, là, puis Justin Herbert qui a pris, je pense, 5-6 minutes avant le kick-off qui startait. Là. Puis justement, il n'y en a pas fait. Il y a une grosse game. Là. Mais écoute, Tyrod Taylor qui se fait perforer le poumon par son médecin, là, c'est quand même quelque chose. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Là. Écoute, j'ai juste Google un peu un poumon perforé. Ouais. Puis tu sais, ils disent que ça prend 6 à 8 semaines. Puis tu parles d'un athlète professionnel qui va courir, puis tout. C'est pas quelque chose que tu peux nécessairement niaiser avec ça.
J'ai cherché à l'hôpital d'urgence. Puis est-ce que j'ai su, je ne suis pas médecin, je ne connaissais pas ça, mais. J'ai su que l'aiguille qu'ils mettent, là, c'est comme des antidouleurs, dans le fond, pour qu'ils puissent jouer. Il y avait une blessure au côte. Puis que souvent, ça s'est fait avec un écran, un genre de résonance là, ou d'ultrasons pour voir ce que tu fais. Ça a comme été fait à frette comme ça, là, avec le médecin qui a mis son doigt entre les deux côtes. Ça doit être à peu près là. Comme perforé, une genre de petite poche d'air qu'on a au niveau des poumons. Puis c'est ça qui cause le poumon perforé. Ouais. Mais toute une histoire, là, juste avant le match.
Il a été comme moi quand j'essaie d'accrocher un cadre chez nous, puis je tape le mur pour un beam, là, tu sais. Mais écoute, grosse erreur. Hein. Puis, mais finalement, écoute, les Chargers, Justin Herbert il a sauté sur l'occasion. Puis finalement, ça ne leur a pas fait si mal que ça là, au bout de la ligne. Là, sa bad luck a fait la joie de Justin Herbert, je pense. Là, puis finalement, il a ouvert un petit spot aussi. Là.
Ouais, parce que des fois, ça prend une blessure au corps partant pour que le corps backup.
Ben oui.
It's time to shine. On sait que Herbert allait éventuellement prendre le rôle à Taylor. Taylor, c'était comme l'intermédiaire là, entre Rivers et le départ de Herbert. Peut-être un départ précipité, mais là, ça a l'air d'être le Herbert show pour le restant de l'année, sûrement.
Exactement. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Il a sauté sur l'occasion, man. Puis, écoute, il n'a jamais regardé en arrière. Là, je pense que Taylor, il va être juste là comme un mentor. C'est de le coacher plus sur le sideline que d'autres choses. Puis, ça a l'air, selon le coach, que toute la semaine, là, il a été là. Puis écoute, il agit quasiment comme un coach avec Justin Herbert sur le terrain. Puis il est très conscient de sa situation avec l'équipe aussi. Je pense que Justin Herbert a tout à apprendre. Puis ça va être juste bon pour lui. Là.
On sait que Tyrod Taylor, à date, avait de la misère avec son accuracy. Là, réussissait, je pense, 50-55% de ses passes seulement sur le target. Ça downgradait les Keelan Allen, les Mike Williams, les Hunter Henry. Là, avec Herbert, est-ce qu'on remet ces gars-là au top de la liste ou ce qui était au départ ou est-ce que ça leur donne plus de valeur?
Ben, écoute, je pense que oui, un petit peu, là, Hunter Henry et Keelan Allen surtout. Justin Herbert a quand même lancé 33 fois dans sa première game dans NFL, quand ça faisait cinq minutes avant la game, puis après qu'il startait. Là. Oui, je pense que les Chargers, c'est une équipe qui sont très forts à la course. Je pense qu'ils courent plus que n'importe qui dans la NFL, là, avec Eckler et Kelly. Mais écoute, je pense que ça peut donner un peu plus de valeur à ces gars-là. Puis, écoute, Justin Herbert, il a connu une grosse game. C'est quand même assez surprenant. Un touché, une interception. Mais quand même, il a été chercher 311 verges par la passe. Là, c'est quand même quelque chose. Là.
Josh Kelly, j'avoue que j'ai sleepé là-dessus. J'ai attendu un peu trop longtemps. Il était dans les pads. J'étais indécis. La semaine passée, je le ramasse, je le ramasse pas. Est-ce que j'étais game de dropper un des joueurs sur mon banc pour lui? Finalement, c'est un très bon ad, Josh Kelly, qui rentre. On l'avait dit, il est rentré dans le rôle de Melvin Gordon, puis je pense que ça va être ça toute la saison.
Oui, oui, je pense qu'il est après avoir le dessus. Puis c'est une équipe qui suit tellement leur course qu'il va aller chercher des touches. Puis oui, moi aussi, j'ai pas mal dormi sur lui un petit peu là.
Mais pour revenir sur la semaine 2, dans toutes les games qu'il y a eu, on a parlé des Cowboys et des Falcons tantôt. On avait dit que ça serait un shootout, on s'attendait à ça peut-être.
Ouais.
Un one side au début, puis le comeback de l'autre, mais Paul Falcons, qui s'il se faisait niaiser pour le premier comeback des Patriots, ça rajoute juste, ça tourne le fer dans le pied un peu des remontées contre.
Oh my God. Écoute, quand j'ai commencé le tagging.
Toi qui t'ont surpris cette semaine.
Ben moi, j'avais justement, en parlant de Tyrod Taylor, j'avais les Chiefs puis les Chargers. C'est une game que je pensais que les Chiefs allaient blow out. Puis c'est encore là. Tu peux pas les sous-estimer. Là. C'est les gagnants du Super Bowl. Ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu depuis, là, on s'entend. Mais écoute, en overtime, 23-20, c'est une game qui m'a surpris. C'était une bonne game à regarder aussi. Puis tu sais, ça met tout le temps un peu plus de piquant, justement, quand tu as des petites histoires reliées à la game. Un peu comme l'affaire de Tyrod Taylor et Justin Herbert. Mais oui, ça a été une game qui m'a pas mal surpris. Puis justement, Cowboys, Falcons. Écoute, moi, j'avais mis CeeDee Lamb dans mon starting line-up. Là, puis au début de la game, là, quand ils ont perdu le ballon trois fois dans des trois, quatre premières séries, là, j'ai capoté. Là, c'était incroyable. Mais oui, ça, c'est les Chiefs Chargers, c'est une des games qui m'a pas mal surpris cette semaine. Puis aussi, les Colts contre tes Vikings à toi. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu.
Ben, on va en parler parce qu'il faut, mais rendu là, on dirait que j'ai déjà lancé la serviette avec les Vikings. Puis on va embarquer dans le tank for Trevor, nous autres aussi, tant qu'être là. Je regarde la division, là, tu sais, puis même les Lions puis les Bears, je pense que ça va être des matchs difficiles pour les Vikings. Cette année, la défensive est jeune, elle est comme en semi-rebuild. T'sais, on dirait que les safeties, c'est des vétérans, mais les cornerbacks, c'est des rookies. Des blessures au niveau des linebackers. La D-line qui n'est pas aussi solide qu'on pensait. On sait que Hunter n'est pas là. Peut-être que ça va donner un boost, mais qu'ils reviennent. Mais je fade vraiment les Vikings. Je n'ai pas leur horaire devant moi. Je sais pas. Ben, les matchs
contre
juste pour des divisions, je ne sais même pas s'ils vont s'en sortir avec peut-être une victoire contre Détroit. Mais...
Ouais. Écoute, moi, tu sais, puis justement, un des matchups à surveiller, Minnesota et Tennessee cette semaine. Minnesota, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés avec Tennessee. Mais écoute, au début, tu sais, moi, quand j'ai vu Week 1, Minnesota perdre contre Green Bay, je me suis dit, ah, peut-être que Green Bay, tu sais, justement, une grosse équipe. Mais là, contre Indianapolis, puis Indianapolis qui ont couru sur Minnesota, tu sais, je veux dire, t'es là qu'il y a une grosse game, ça fait mal un peu, là. Mais que toi, pas, je suis dans le même bateau avec mes Giants. J'ai pas lancé la serviette, mais pas loin, là. Surtout avec la blessure de Barkley, là, ça fait mal, là.
OK, mais tu m'ouvres la porte. Là, on va boucler la boucle. Là. On va closer ça une fois pour toutes. Dans le dernier podcast, on a parlé de Evan Engram et de Noah Fant. C'est la comparaison qu'on fait depuis le début. Ils ont été draftés sûrement à 100 joueurs d'écart. Hein. Tu as pris Evan Engram cette semaine. Deuxième déception avec Evan Engram. Pas de touchdown. Noah Fant va finir avant Engram en fantasy cette année, c'est ça?
Ben écoute... J'ai essayé de donner une autre chance à Engram. Tu sais, ça a été plus productif que semaine 1, là, on s'entend, là, mais quand même, Noah Fant qui a eu le dessus. Ouais, inside scoop pour mon pool, pour mon fantasy cette semaine, c'est Noah Fant qui start. Même si le match-up n'est pas favorable, je passe par-dessus ça, là, puis on va y aller avec Noah Fant par-dessus. Engram, je pense pas qu'Engram va connaître. Je pense pas que les Giants, en fait, c'est toi qui l'as blessé de Saquon Barkley. Je pense que ça va être de plus en plus difficile. Même si on était cherché Devonta Freeman, je pense pas que ça va être la recette magique là, pour les Giants. Là. Je pense qu'ils font juste patcher un petit trou. Mais ouais. Evan Engram en bas de Noah Fant cette semaine.
Il a été repêché comme un endroit bizarre où est-ce que il avait slidé des années précédentes, là, il était plus bas. On dirait que quand tu le draftais là, tu pensais que tu avais quand même une bonne valeur. Regardez le genre des running backs ou des wide receivers qui auraient pu être draftés à la place. Ça peut faire mal quand tu avais Evan Engram. Surtout que tu te misais là-dessus comme tight end partant et que tu n'en as pas ramassé.
Absolument.
Il va falloir que... Mais es-tu droppable pour toi, Engram?
Je pense pas qu'il est nécessairement droppable, mais par contre, il peut être un popular trade bait pour des gars qui ont justement perdu Kittle. Tu sais, des gars qui ont de la misère au niveau de tight end. Je pense qu'il va quand même aller chercher une popée production. Mais tu sais, moi qui ai les deux dans l'équipe, Noah Fant et Engram, je pense que j'ai pas le choix, il faut que j'aille par Fant. Il a prouvé contre la semaine passée contre les Steelers, qui était capable de dominer contre une grosse défensive, même si Drew Lock s'est blessé. Ouais, fait que dans mon cas, moi, personnellement, Noah Fant par-dessus Engram. Mais je pense que Engram peut être un bon trade bait pour des gars qui ont besoin de tight end en ce moment.
Pour rajouter de la valeur peut-être à un trade, c'est juste que... En début de saison comme ça, je trouve que les bancs sont loadés. Tu as beaucoup de joueurs. C'est difficile de dropper des joueurs à part s'ils sont blessés. Ouais. Vraiment, ils n'ont rien fait. Ils ont l'air épouvantables. Mais même dans mes ligues, je vois pas quel running back ou wide receiver ou même mes backup tight end en ce moment que je serais prêt à dropper pour mettre Engram.
Non, c'est
ça. Bonne chance à essayer de le trader. Je pense que ça peut être intéressant si vous y arrivez. Mais sinon, ou attendre. Tu le gardes. Puis on sait jamais.
C'est ça. T'as pas le choix parce que c'est un gars qui a été repêché tellement. T'sais, assez haut dans le draft, là, que je pense pas que tu peux juste le drop comme ça. Parce que anyway, moi, si je serais dans une ligue où ce que j'aurais pas Noah Fant et Engram, mettons, puis je verrais Engram se faire drop, écoute, il y a une possibilité que j'irais le chercher, je trouverais un trou dans l'alignement. Fait que juste un drop, je pense que t'es trop perdant. Mais ouais, Engram qui a un début de saison assez difficile, là, mais on espère que ça va remonter un petit peu.
Il y avait un autre game aussi, un genre de Monday Night qui m'a fait mal. Les Saints et les Las Vegas Raiders. Je suis dans un pool, ça s'appelle Chips. Ce qu'on fait, c'est qu'on choisit les gagnants chaque match et on attribue une valeur de 1 à 16 pour chaque match. Donc, par exemple, j'ai pris les Chiefs avec 16 points. Les Chiefs gagnent, j'ai le 5 points et ainsi de suite jusqu'en bas. J'avais 15 prédictions sur 15 de bonnes. Il me restait les Saints à battre les Raiders. J'étais neck and neck avec un autre dans le pool que lui, à dernière minute, a choisi les Raiders. Je pensais qu'on allait splitter le pot avec une semaine parfaite, les deux, mais il a choisi les Raiders. En plus, il remporte la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Saints? C'est-tu vraiment juste Michael Thomas qui tient cette équipe-là ensemble? Ou?
Ben écoute, on dirait, hein? Parce que Drew Brees, je pense que Drew Brees, là, ça, c'est la première fois. On l'a vu vers la fin de la saison dernière, là. C'est l'âge qui commence à le rattraper un peu. Mais là, je pense qu'avec la blessure de Thomas, on voit vraiment que Drew Brees a de la difficulté à suivre. Puis je pense que oui, dans un sens, Michael Thomas, c'est comme un peu la colle des Saints. T'as Alvin Kamara qui est partout sur le terrain, on s'entend.
Pas le choix.
Mais pas le choix, c'est ça. Exactement, pas le choix.
Même Emmanuel Sanders, qu'on a donné du praise la semaine passée, ouais, je sais.
Zéro. Zéro. Emmanuel Sanders, justement, dans notre prochaine... prochaine séquence, si on veut, de player qu'on peut vendre. C'en est un, justement, qu'on peut drop, Emmanuel Sanders. Dans le fond, t'as Trick on Smith qui est là, qui va prendre le dessus. Puis t'as Alvin Kamara qui bouge tous les trous possibles. Fait que, on voit à quel point que Michael Thomas, justement, est important dans ce game-là.
Ouais, Alvin Kamara, il est dur à shutdown, c'est sûr, mais les Sanders, même les Jared Cook, je pense que les défensifs vont avoir de plus en plus de facilité à contrôler les Saints. Puis...
ouais.
Michael Thomas va peut-être revenir plus tôt qu'on pense, finalement.
Ouais, puis je pense que les Saints, ça va être un de leurs busts, un des busts cette année. Surtout avec la blessure de Thomas. Si c'est quelque chose qui est là toute la saison, on s'entend, là, ça peut le suivre toute la saison, ce genre de blessure-là. Ça peut leur faire très, très mal. Là.
Parlant de blessures, semaine 2 épouvantable pour les blessures. Je recevais les alertes une après l'autre. Ping, 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 un out, out, out. Il y en a qui étaient moins pires que d'autres. Saquon out for the season. McCaffrey qui a landé sur le IR, fait qu'il manque minimum 3 semaines. Il y en a tout plein d'autres. Il faut patcher ces trous-là. Sur les waivers, qu'est-ce qui était populaire pour toi cette semaine?
Ben dans le fond, dans les waivers, je m'étais fait une petite liste. Là. au niveau running back, excuse-moi, j'ai juste trouvé ça ici. Là. Dans le fond, tu avais Daryl Anderson, parce qu'avec la blessure de Malcolm Brown, Cam Akers, on va voir ce qu'il va pouvoir produire. La semaine passée, quand même, fait une grosse game. Miles Gaskin, un autre gros nom à aller chercher. Jerick McKinnon.
Tu parles d'aller chercher, là, mais quand est-ce qu'on va starter Miles Gaskin à part.
C'est ça, ça dépend.
Dans les bye weeks dans 6 semaines.
Oui, mais c'est ça, ça dépend comment ton équipe est faite. Parce que tu sais, c'est un gars que tu peux mettre dans le flex. Ça dépend à quel point tu es affecté par les blessures. Sinon, tu as Jerick McKinnon, encore une fois, qui peut être un gros nom, mais qui tombe un peu dans la même catégorie. Ça dépend à quel point tu es deep au niveau des running backs. Si mettons Saquon Barkley que tu as perdu ou McCaffrey. Ça n'est pas vraiment à quel point tu es dit, mais je pense que c'est des noms quand même, Daryl Anderson, Miles Gaskin, puis Jerick McKinnon, d'intéressant sur les waivers cette semaine.
Avant Jerick McKinnon, je te dirais que je starterais Wilson Jr. J'ai l'impression que Wilson Jr. va faire plus de points que McKinnon. Si tu regardes l'année passée, comment ils l'ont utilisé justement dans les blessures, tu avais Matt Breida, il y avait Matt Breida qui sortait, on dirait qu'il faisait 2 jeux, il était blessé pour 5 jeux.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Mais Wilson Jr., si tu viens l'année passée, a vraiment saisi l'opportunité. Puis McKinnon, c'est pas un workhorse back, c'est pas quelqu'un qui va prendre tout le workload. Je pense que Wilson Jr. aussi là, peut avoir de la valeur pendant que les autres sont blessés.
Je suis d'accord avec toi. Niveau McKinnon, c'est un peu plus intéressant. Peut-être au niveau de la passe. Je pense qu'il y a un petit peu plus de upside, mais tu as raison. Les deux buts étaient un très bon choix. Là.
Je saute un peu quelques affaires qu'on avait notées, mais c'est parce qu'on parle des Niners. Moi, j'ai George Kittle dans 2 ligues. J'ai bien hâte de savoir ce qui se passe avec George Kittle. C'était un MCL sprain, un entorse qu'il y avait, mais là, c'est rendu un bone bruise aussi, là, une ecchymose osseuse. A.J. Brown ne jouera probablement pas cette semaine. Il n'a pas joué la semaine passée avec le même type de blessure. George Kittle qui pense peut-être pouvoir jouer cette semaine.
Moi, je pense pas que les 49ers vont le pitcher sur le terrain juste comme ça. Parce que justement, quand on parle de blessures qui peuvent commencer gros comme ça, puis finir grosses comme ça, là, puis qui peuvent l'encombrer toute la saison, je pense en est une. Peut-être qu'ils ont vu justement le bone bruise après que l'enflure soit toute partie. On sait qu'avec les blessures au genou, c'est un des problèmes. Ça devient tellement enflé qu'ils ne savent pas les dommages complets sur la blessure après que l'enflure soit partie. Je pense que les 49ers vont peut-être être patients. Je pense pas que ça vaut la peine que Kittle embarque sur le terrain cette semaine.
Ils ont joué au MetLife, c'était contre les Jets, ils ont joué au MetLife, si je ne me trompe pas, puis ils jouaient encore au MetLife cette semaine contre les Giants.
Exactement.
Là, ça se plaint du turf, là, ça se plaint de la zone du ciel sur le terrain. Je sais que c'est ton stade des Giants, je ne sais pas si tu as trouvé l'info sur ce qui se passe avec le turf.
J'ai entendu ça cette semaine à la radio, mais écoute, je ne peux pas croire que... Tu sais, on s'entend que c'est une bad luck. Là. Je pense qu'ils ont perdu quasiment la moitié de leur équipe en une game. Là. Mais je ne pense pas que le terrain a nécessairement quelque chose à jouer là-bas. Là. Je pense pas qu'en fait, il n'y a aucun terrain de la NFL qui est en condition tellement médiocre qui pourrait affecter la santé des joueurs. Là,
j'imagine qu'à voir pour Kittle, je ne pense pas qu'il va jouer non plus. Ceux qui ont pris un gamble sur Jordan Reed, nous autres, on n'était pas trop chaud à l'idée sur notre dernier podcast. Il y en a qui ont pris le gamble, qui ont pris Jordan Reed, 2 touchdowns.
Ouais.
Gros comeback pour Jordan Reed qui a passé, on dirait, 3/4 de sa carrière sur le IR, là, sur la liste.
Ouais. Oui, ben écoute, justement, c'est plus que Kittle est out, le mieux c'est pour lui. Mais tu sais, on s'entend que ce gars-là, aussitôt que Kittle revient, il perd toute sa valeur.
Oui, c'est clair.
C'est un gars justement qui faut le prendre pendant que c'est hot en ce moment. Ça peut être un super bon waiver pick-up, mais je pense que la plupart des ligues doivent être pris. Aussitôt qu'elle revient, ça devient un automatic drop.
Dans 2 de mes ligues, ça va quand même bien. Je suis premier dans une des ligues, 4e dans l'autre. Dans ma 3e ligue, ça va un peu moins bien. C'est une ligue essai-erreur pour moi. Là. Je suis dernier, 0-2. Je suis allé avec un blockbuster trade cette semaine. J'ai échangé Todd Gurley, James Robinson, eux autres, c'était comme mes running back flicks, là, parce que j'avais Joe Mixon puis Miles Sanders qui startaient, puis là, je me demandais toujours James Robinson ou Todd Gurley. J'ai échangé ces deux joueurs-là, plus Keenan Allen. C'est quand même une bonne valeur. Mark Ingram de Baltimore, A.J. Brown de Tennessee, puis je suis allé chercher Christian McCaffrey des Panthers.
Je pense qu'au bout de la ligne, tu as gagné ce trade-là. À long terme, écoute, AJ Brown et McCaffrey. Moi, le gars qui a vendu McCaffrey, c'est parce que son équipe complète devait être blessée. Là.
Alors, lui, ça a été une semaine difficile. Il a perdu McCaffrey, Cortland Sutton, puis un autre, je pense, dans le même après-midi. Il se ramassait avec des gros trous au niveau des starters, pas assez de profondeur sur le banc. C'est un genre de trade. Je voulais t'en parler aussi, des stratégies de trade, de faire ça, prendre un gros joueur comme ça, tu regardes. McCaffrey est sur le IR, il ne jouera pas pour les trois prochaines semaines. C'était mon meilleur joueur. Il faut que j'aille me chercher des starters ou de la valeur en retour. Je pense que lui, il est 0-2 aussi. Fait qu'il a comme opté de la même stratégie d'échanger McCaffrey, mais au moins il y a des starters stables pour les trois prochaines semaines. Puis peut-être ça donne une chance de remonter la pente un peu.
Oui, ben c'est ça qui est quand même important. Là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des gars qui ont été tellement affectés par les blessures que tu n'as pas le choix de venir patcher. Puis c'est là que tu as d'autres gars qui peuvent. Prendre un peu l'avantage là-dessus. Mais écoute, je pense que tu n'as pas le choix. Il faut quand même que tu aies une équipe qui peut compétitionner toutes les semaines parce que c'est pas trop long que Fantasy Football, tu prends du recul. Ça devient long à remonter. Là. Mais au bout de la ligne, tu as gagné ce trade-là, mon cher. C'est sûr à 100%. Là.
Ben, c'est un gamble. Là. Je me ramasse avec Le'Veon Bell et Christian McCaffrey sur mon banc. Ils prennent deux spots. Ils m'attendent encore minimum deux semaines pour Bell et trois pour McCaffrey.
Ouais.
C'est un gamble. La saison est longue. On est juste à la semaine 2. Et là, on dirait que le football va commencer.
Ouais.
Semaine 1, c'était le bordel. C'était une grosse pratique pour tout le monde. Comme un pre-season. Peut-être la semaine 2 aussi. Là, vraiment, je pense que ça va se concrétiser dans les semaines à venir, là, 3, 4. Et on va avoir un bon aperçu pour le reste de la saison.
Ouais.
Toujours de faire les meilleures analyses, les meilleures prédictions.
Ben, c'est exactement ça. Parce que t'es un peu. Les deux premières semaines, c'est. Je suis content que les équipes vont commencer à voir. D'autres équipes, c'est un peu dur de les analyser puis de savoir qui va connaître une bonne saison, qui va pas connaître une bonne. Ouais. Mais tu as vu plus que la saison avance, je pense que week 3, week 4, ça commence à vraiment se placer. Ça risque d'être bien, bien, bien intéressant. Là.
C'est important pour toi de handcuff ton running back, aller chercher le backup de ton running back quand tu as justement comme un McCaffrey ou un Dalvin Cook, Ezekiel Elliott?
Ben, je pense pas que c'est nécessairement important. Je pense que c'est des gars qui prennent de la valeur extrêmement rapidement. Aussitôt que des gros noms comme ça sort. Mais ça dépend de la situation sur ton équipe. Mais encore là, je pense pas que... Moi, personnellement, j'irais pas tout de suite mettre la main sur mon backup, si on veut, au cas que mon starter se blesse. Je pense qu'il y a assez de bons joueurs et assez de bons running backs dans la NFL pour quand même couvrir un spot. Surtout que ton backup au bout de la ligne, il va passer 90% du temps sur le bench à moins que ton starter se blesse. Je pense pas que ça vaut la peine de nécessairement pas prendre une place sur ton bench pour ça. Là.
Sauf pour ceux qui sont déjà fragiles à la base. Parce que moi, j'ai drafté Dalvin Cook, mais c'était inconcevable que j'aille Dalvin Cook mais pas Madison en backup au cas où, juste pour son historique de blessure. Mais tu sais, Christian McCaffrey, je pense que tu peux pas vraiment handcuffer ce gars-là parce que c'était pas tant clair. Là, si Reggie Bonifon ou Mike Davis ou qu'est-ce qu'on ferait si McCaffrey allait se blesser. Puis on dirait que ce gars-là, il était tellement durable puis que ça ne me pas dans la tête là, que McCaffrey pouvait possiblement se blesser. Saquon, oui, à cause de son historique, mais McCaffrey, on dirait que je le voyais comme un tank puis qu'il était blindé là, de toutes ces blessures-là. Donc, on voit qu'il n'y a aucun joueur de la NFL qui sont à l'abri, évidemment.
Non, exactement. Donc,
j'ai ramassé Mike Davis et Waivers cette semaine.
Ben écoute, c'est sûr qu'il va aller chercher la majorité des touches à Caroline. Encore là, ça dépend. Je pense que ça peut être un très bon choix pour un flex. Sinon, ben, au niveau des Giants, ça va être la perte de Barkley. Toi, tu penses quoi de Devonta Freeman?
Ce qui m'inquiète de Devonta Freeman, c'est les essais qu'il a eu avec les autres équipes. Puis il a pas. Je pense pas que c'est une question d'argent vraiment pour lui. Il dit qu'il attendait de signer avec une équipe où il avait la chance de starter. Je pense qu'à Détroit, il a eu la chance de starter.
Oui. Ben écoute, à Détroit, peut-être pas, mais ben. En tout cas, avec DeAndre Swift qui commence à prendre le dessus là-bas, là, ça aurait pu être dur. Mais tu as vu pour cette
semaine. À son arrivée, là, il y avait un rôle de Freeman, c'est sûr.
C'est ça. Mais pour cette semaine en tant que telle, je pense pas que Freeman, c'est peut-être le gars à mettre sur ton flex. Oui, je sais qu'il vient de signer avec les Giants, mais je pense pas qu'il va avoir un gros impact cette semaine. Pour les semaines prochaines, par contre. Je pense que ça va être un gars qui va se glisser dans le rôle numéro 1 des Giants. Je pense pas que c'est Lewis et Gallman, dans le fond, qui sont là, 2-3. Je pense pas qu'ils vont être capables de prendre toute la charge. Je pense que Freeman va vraiment se glisser comme numéro un là-bas. T'as vu, Gallman, il n'était même pas habillé la dernière game. Mais écoute, je pense que c'est un gars qui peut valoir la peine pour les prochaines semaines. Mais pour cette semaine, je ne prendrais pas la chance de le mettre comme flex, mettons, sur mon équipe. Là, même si les tendances sont assez hautes sur lui. Là,
peut-être goal line work un peu pour Freeman. Je pense que ça, il serait capable de le mettre game ready pour goal line work, pas le workhorse pour cette semaine. Le temps d'apprendre l'offense et tout ça. Surtout que si tu l'utilises dans le passing game, effectivement, c'est Dion Lewis en PPR. Je pense qu'il va aller chercher la majorité des réceptions.
Ouais.
Je mène avec toi, peut-être attendre pour Freeman, à moins que vous êtes désespéré. Vraiment, là, vous avez suivi les grosses blessures, vous n'avez pas d'autre running back. Freeman peut être une option, mais ça va être sûrement un touchdown au poste pour Freeman cette semaine.
Je suis d'accord avec toi.
Pour les waivers, on a parlé de Mike Smith, on a parlé de Mike Davis, excuse, Devonta Freeman, McKinnon, puis T'avais-tu d'autres gars sur les waivers cette semaine? J'avais une personne aussi qui était sur mes waivers, qui a été ramassé assez vite, étant donné la charge de travail qu'il y a à Jacksonville.
Oui. Tout à fait d'accord avec toi, Keelan Cole, c'est un très bon pick-up là, pour cette semaine. Tu avais Russell Gage encore une fois cette semaine, que je suis sûr qu'il va connaître une grosse game. Puis tu as vu, je pense que cette semaine, il est comme le choix numéro un pour, sur NFL Fantasy au niveau receveur sur les waivers. Là, je m'en étais écrit une autre coupe. Là. Tu vas perdre le contrôle sur mes feuilles.
C'est pas grave, mais moi, je vais te laisser ça dans notre prochain segment, qui est les joueurs qu'on vend, les joueurs qu'on garde, les joueurs qu'on achète. On va nous starter ça. J'ai pris des petites notes qu'on va pouvoir mettre à l'écran. C'est caché à quelque part. Bon, je vais commencer avec les joueurs que tu achètes cette semaine, Gas.
Oui.
Là, c'est plus des joueurs, c'est plus waivers. On ne parle pas de trade targets, c'est des joueurs qui pourraient être disponibles ou sinon facilement échangeables là, d'une équipe à l'autre.
Oui, ben écoute, Ryan Tannehill, écoute, une autre grosse semaine. Moi, personnellement, j'ai été le chercher. J'ai dit ciao bye à Daniel Jones. Je me gardais toujours un backup quarterback. Puis depuis Tannehill cette semaine, ça fait deux semaines qu'on a des très bonnes games. Puis là, cette semaine, contre Minnesota, un match-up qui est très favorable pour lui. Tu as Big Ben qui est revenu de sa blessure au coude. Qui semble offrir des papiers performances. Fait que, si tu as des blessures au niveau des carrières, sinon tu as des carrières, mettons, qui ne performent pas du tout à la Carson Wentz un peu. Tu as vu, moi, j'avais été assez chanceux pour draft les deux, Carson Wentz et Daniel Jones.
Écoute, l'année prochaine, tu vas aller chercher un top 5 QB, je pense.
Ah, écoute, là, je pense que j'ai pas le choix. Pas non, c'est fini. J'ai opté pour deux running back numéro 1, mais t'as vu, ça lâche à quelque part, mais écoute. McKinnon,
surtout vu que t'es 0-2 dans le fantasy de 3 points pour la ligue.
Ah oh, oui.
Quelque chose, un petit trade là, qui s'en vient, un petit
truc que
tu peux faire avec ça.
J'ai pas de trade qui s'en vient, mais dans le fond, là, moi je prédis cette semaine que je vais connaître une grosse victoire. Je joue contre, écoute, je connais pas c'est qui exactement dans notre pool, ce gars-là, mais dans le fond, il est 2-0 lui, puis moi je suis 0-2. Puis je garantis qu'une victoire cette semaine. J'ai Tannehill, Henry, Miles Sanders, Mike Evans, CeeDee Lamb, tous sur mon starter. On va connaître une grosse semaine cette semaine. Russell Gage, justement, dans mon flex. Je pense que ça va être une bonne semaine.
Je vois que tu as Dallas Goedert aussi dans les joueurs que tu achètes.
Oui,
on a parlé beaucoup la semaine passée, Goddard et Hurts. Les deux ont de la valeur, mais c'est difficile à savoir d'une semaine à l'autre.
Ben, c'est ça. Ça dépend des blessures sur ton équipe. Si c'est un gars qui a des blessures au niveau des tight ends, puis tu veux pas aller nécessairement sacrifier ton équipe pour un gros trade, pour aller chercher un plus gros nom, comme on parlait tantôt. Je pense que Goddard, ça peut être un bonne option qui est encore sur les waivers ou sur le free agency. Un peu moins cette semaine, parce que là, ça fait quand même deux bonnes games qu'il connaît. Mais je pense que c'est un gros nom à aller chercher si tu as des blessures.
J'ai comme l'impression que les Eagles, on avait dit que cette année, que là, il allait avoir des targets pour Carson Wentz et tout ça. DeSean Jackson, j'attends encore qu'il embraye.
Ouais.
Alshon Jeffrey qui est sur le point de faire un retour au jeu, je ne sais pas si ça va être cette semaine, mais
ouais.
Alshon Jeffrey et DeSean Jackson, on dirait que c'est pas le meilleur duo de wide receiver que je voudrais avoir, surtout quand tu me dis que cette année, Carson Wentz va avoir toutes les weapons. C'est pour ça qu'il se tourne vers Dallas Goedert, qui est comme un gros receiver. Là. C'est surtout ça qu'on voit avec les Titans maintenant. Les Titans, c'est des gros receivers vite et forts. L'arrivée de Miles Sanders aussi, le retour de Miles Sanders qui a manqué la première semaine, donne un boost aux Eagles. contre Cincinnati cette semaine, je pense que ça va être trending up là, pour les joueurs de Philadelphie.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Surtout au niveau de Miles Sanders, je pense que c'est un gars qui va connaître une autre très grosse semaine cette semaine au niveau fantasy. Bon, Carson Wentz, ça reste à voir.
Je vais te laisser en parler dans les joueurs que tu gardes, mais je vais passer aux joueurs que j'achète. Moi, je sais que tu es allé plus waiver, toi. Moi, je suis allé plus straight target, des joueurs qui pourraient être disponibles dans des échanges pour des clubs, justement, là, qui ont eu des blessures ou qui cherchent à s'améliorer. Je pense que Adam Thielen, on parlait des déboires de Minnesota, puis ça va mal là-bas, mais Adam Thielen, il va rester une valeur sûre pour les Vikings toute la saison parce qu'il n'y a personne d'autre vraiment. Et même les Titans, entre Rudolph et Irv Smith, je ne suis pas à l'aise de starter ni l'un ni l'autre. Jefferson et Oluwabc Johnson, tu ne peux pas starter ça. Fait que Minnesota vont perdre plein de games, ils vont perdre par beaucoup, ils vont arracher en défensive, ils vont tirer de l'arrière dans trois quarts de leur game sûrement cette saison. Cousins va lancer à Thielen, le volume va être là, puis Thielen, on en parlait, là, même en double coverage, on dirait qu'il est capable de sortir des gros jeux. S'il y a quelqu'un qui panique et qui veut s'améliorer, je pense que Thielen, on peut le vendre comme étant un joueur. Tu dis, gars, je vais te prendre Thielen, je vais le prendre sur mon équipe dans le trade. Puis je pense que ça peut être sneaky un peu comme ça. Là. La valeur de Thielen en ce moment est à la baisse à cause que Minnesota ne va pas bien. Mais il va reprendre son spot habituel, là, sa valeur habituelle, je pense. Ouais. Thielen pourrait être un bon joueur à aller chercher là, pour. Un échange qui est sur le point de se passer, disant, je prendrais Thielen de plus, puis vous passez en échange un bench player ou quelque chose comme ça. Même chose pour Fournette. Vous êtes capable d'aller chercher Fournette, je pense que c'est le point. Lui, son total projeté, là, ses points projetés, ils ont shoot up cette semaine. Il était projeté du 6-7 points là, en PPR, il est rendu à 16 points. Je pense que les Buccaneers cherchaient une raison de dire, ah, OK, finalement, ça ne sera pas Ronald Jones. T'sais, ils ont tellement parlé de Ronald Jones, ils ont dit que ce serait lui le partant. Même quand Fournette est arrivé à Tampa Bay, ils ont dit, c'est correct qu'on a Fournette, ça va prendre du temps d'apprendre l'offense. On va garder Ronald Jones comme lead back. Avec son fumble la semaine passée, puis la qualité de jeu à Fournette, je pense que dès cette semaine, là, c'est Fournette qui va prendre le dessus dans le backfield.
Ben, c'est ça, je pense que dans le fond, c'était la job à Jones à perdre, dans le fond, là. Aussitôt qu'il y a dans le fond qu'il y a un de ces deux-là qui commet une erreur, je pense que c'est automatiquement le switch. T'sais, Jones n'a pas été benché complètement après son fumble. Mais je pense que Chabal, quoi, cinq autres fois après, fait que c'était pas une grosse production par la suite. Là. Je pense que tu as raison de donner le Fournette à aller chercher. Mais je pense qu'il ne faut pas encore paniquer avec Ronald Jones.
Là. Non, mais tu sais, j'avais un trade à faire, puis je vais aller me chercher un porteur de ballon, je vais chercher Fournette avant.
Fournette, oui, absolument.
C'est la fin de la saison.
Absolument.
Un autre que j'ai mis, c'est, j'avais pas précisé, là, ça pourrait être David Johnson ou Diontae Johnson. Ça va être Diontae Johnson. Vraiment, tous les receveurs des Steelers, là, j'adore regarder l'offensive des Steelers. Big Ben est encore capable de lancer
des
passes et le touchdown qu'il a lancé en fin de semaine. Chase Claypool aussi, que finalement, on le voit sur le terrain. Je pense 3 réceptions, 85 verges pour.
C'est
lui qui a eu le toucher, je pense, sur le.
Le play. Pass, ouais, absolument.
Avec la défensive des Steelers qui est impressionnante. Moi, j'achète tout ce qui est Steelers. Puis même, j'ai failli Drew Brees, je l'ai dit la semaine passée. Là, j'ai benché Drew Brees pour mettre Ben Roethlisberger. Puis il a porté fruit. AJ Green aussi, c'est dans le même thème que les autres, mais dans le sens que dans un trade, tu sais, des fois, des joueurs un pour un, là, on a de la misère à faire des trades un pour un. Puis on peut rajouter des morceaux. Souvent, des trades, là, ça va être du 2-3 joueurs. Je pense que AJ Green, on peut argumenté, qui est un downside receiver, tu sais, qui ne fait pas des chiffres comme avant, il ne sera plus jamais le receveur d'avant. Et Joe Burrow va juste s'améliorer au fur et à mesure que la saison avance. Puis AJ Green, si vous êtes capable de buy low, là, aller chercher dans un échange pour ne pas donner grand-chose en retour, ce n'est pas un joueur que je détesterais avoir. Surtout, tu sais, les bye weeks vont s'en venir, ça va prendre Vardo blessure. Je pense qu'AJ Green, ça peut être un bon plug là, plus tard dans les fantasy.
Oui, je suis quand même d'accord avec toi. Par contre, je pense que Tyler Boyd est vraiment peut prendre le dessus à Cincinnati. Et comme tu as dit, Burrow, il va lancer la balle 60 fois par game.
Grâce des trade targets. Pas by low. Tyler Boyd, il n'y a pas personne qui va
donner comme,
comme moi qui ai essayé d'aller chercher Jonathan Taylor sneaky dans une ligue. Ah, je vais prendre Taylor. Mais. Je pense que c'est le temps, justement, là, comme des gars comme Thielen et Green, quand ça va un peu moins bien, d'aller les chercher maintenant si vous cherchez un trade intéressant. pour le upside plus tard dans la saison. Puis j'ai mis un tight end là-dedans aussi parce que avant Evan Engram, je pense que je starterais Mike Gesicki qui enfin là, c'est un gars qui scorait pas de touchdown, il était un early pick, par exemple, pour les Dolphins là, quand ils sont
allés chercher.
Il est supposé être un tight end impressionnant. On dirait que là, il a maturé, il est NFL ready pour la grosse production en fantasy. Je suis allé chercher dans deux ligues Gesicki puis il va starter pour moi cette semaine.
Tout à fait d'accord avec toi, Gesicki. Je pense qu'il a fait tout un catch la semaine passée, un one-handed catch. Là. Ah. Écoute, je pense que c'est un gars qui finalement, il devient le joueur qui est supposé devenir. Dans le fond, que les Dolphins pensaient qu'il allait devenir. Très bon call là-dessus, Chuck.
Un autre joueur pas cher aussi, là, qui était peut-être sur les waivers ou s'il n'est pas disponible là, c'est parce que quelqu'un vient sûrement juste de le ramasser. Là. Je pense qu'il y en a même qui l'avait droppé après la première semaine pour des gars comme Jonnu Smith et Logan Thomas et des tight ends comme ça. Fait que gros upside pour Gesicki, s'il est disponible, il faut faire de la place pour lui. Je pense que là, ça prend un backup tight end absolument. T'sais, moi, j'ai commencé souvent avec juste un QB, un tight end. J'ai misé sur les running backs, les wide receivers pour mon bench.
Ouais.
Après des backups,
ça prend ça. Pas le choix. Des backups, c'est très important. Tu sais, des fois, moi, je suis tout le temps un gars que j'ai tout le temps draft deux quarterbacks puis deux tight ends, juste au cas, parce que si t'en as un qui tombe au combat, ça te prend un backup absolument. Ça te prend un backup qui a de la qualité. C'est tellement tête dans le fantasy chaque semaine. Tu n'as pas le choix d'avoir des joueurs qui performent. Puis, juste avant qu'on passe aux gardes, là, dans le fond, on parlait de trade tantôt, buy low. Je pense que Kenyon Drake, écoute, je me suis brûlé la semaine passée, j'ai fait un peu un pic de mal. J'ai dit que Malcolm Brown allait avoir plus de fantasy points que Kenyon Drake.
Bon, j'étais mis sur le spot. 2,5 points à PPR.
Ouais, mais écoute, j'étais mis sur le spot. En tout cas. Mais écoute, Kenyon Drake.
Non, mais j'adore ce type de prédiction-là parce que, tu sais, il n'y a personne qui. We don't hold it against you dans le sens.
Ben non.
C'est un bold prediction. Il n'y a personne qui pense que ça va arriver. Puis si ça arrive, ben, t'es un génie.
Ben oui. Je parais comme l'homme le plus brillant de la Terre. Mais écoute, Kenyon Drake, écoute, c'est un gars qui. Il y avait tellement de talk autour de lui en début de saison. Je pense que les deux, on était bien high sur lui, en fait, au début de la saison. On pensait que ça allait être un gars qui allait tout casser. Puis t'as vu, après deux semaines de fantasy, oui, les Cards ont montré des choses prometteuses au niveau de l'offensive. Mais dans le fond, 14 points semaine 1, 11 points semaine 2. C'est pas un gars qui est après tout casser. C'est peut-être justement un genre de trade bait que tu peux aller chercher, buy low. Peut-être que le propriétaire de Kenyon Drake dans ta ligue. Peut-être pas satisfait, peut-être que tu peux l'attirer avec un autre joueur. Je pense que c'est un gars qui voudrait la peine d'aller le chercher parce que je pense qu'il va bounce back très bientôt.
Ben, je pense que Kenyon Drake, ça va coûter tellement cher. Il faut que tu donnes si tu veux aller chercher ça. Il a été drafté comme un RB1. Tu sais, c'est le RB1 à quelqu'un.
Oui, ça c'est sûr. Il
peut être upstagé par un RB2 comme qui ont payé Aaron Jones en descendant ou Austin Eckler, quelque chose comme ça.
Oui.
Et je pense que c'est difficile d'aller chercher ces running backs-là derrière moi. Gamo, pour un running back blessé pendant 3 semaines, il a fallu que je donne.
Ouais, tu donnes beaucoup, là. Mais écoute, tu sais, t'as vu, dans une situation de trade, où ce que, mettons, t'aurais McCaffrey, puis t'as un bon RB2, t'as des bons flex, peut-être que justement, McCaffrey peut attirer dans un échange. Aller chercher un gars comme Kenyon Drake. Puis c'est un gars qui va bounce back bientôt, puis qui va aller chercher des fantasy points, c'est sûr, à 100%. Peut-être McCaffrey, mais peut-être, tu peux avoir une équipe plus balancée là-dessus. Là.
C'est comme dans 3 semaines, là, j'ai un club qui va ressembler dans la ligue où ce que je n'arrache. Là. Ça va être Ben Roethlisberger, suivi de McCaffrey, Miles Sanders, mettons Joe Mixon en flex, rendu là. Puis dans les bye weeks, si Le'Veon Bell est capable de revenir aussi, ça va être mon RB flex. Avec le A.J. Brown que je suis allé chercher comme wide receiver, puis Calvin Ridley.
Ouais, écoute, c'est solide. C'est
juste de garder la tête un peu au-dessus de l'eau jusqu'à ce qu'il y ait.
Mais tu sais, écoute, Miles Sanders, je pense qu'il est de retour. Il y a une grosse semaine la semaine passée. A.J. Brown, bon, mais ça reste à voir encore une fois, là, quand est-ce qu'il va revenir, puis s'il va être capable d'aller chercher. Ben, il va aller chercher les targets, mais on s'entend dessus que Corey Davis et Jonnu Smith vont en chercher beaucoup maintenant. Mais écoute, ça va avoir l'équipe sur le
prochain. Garde Carson Wentz cette semaine, toi.
Non. Écoute, je le garde, mais sur mon banc.
OK.
Ouais. Écoute, c'est un gars, je pense pas que ça vaut la peine de le shop tout de suite. Je pense que t'auras jamais...
T'auras rien,
mais c'est ça. Fait que ça vaut pas la peine, un, de le drop, zéro. Puis d'aller le trader, t'auras jamais qu'est-ce qu'il te faut pour ça.
Mais il faut préciser que nous autres, là, dans nos ligues, on joue principalement avec des one QB, là, un carrière sûrement.
C'est
dans
ça,
les
ouais.
ligues, il y a deux carrières. J'en ai aucune cette année, mais ça va être de la panique un peu, là, tu sais, quand...
Ah, mais c'est sûr, une ligue à deux quarterbacks, on s'entend que c'est pas trop long que tous les starting quarterbacks dans NFL sont pris. Fait que, tu sais, quand
t'es... Première ronde, Lamar Jackson, ça peut être un first overall pick, là, dans des genres...
Absolument, absolument.
Je pense que ceux qui ont repêché Carson Wentz, il y en a peut-être qui l'ont pris même comme QB1. Ça doit être difficile.
Ben oui, c'est ça. C'est là que ça devient difficile. Je pense que... Justement, on parlait de ses weapons tantôt. Beaucoup de blessures. Semaine 1, Miles Sanders n'était pas là. En plus, fait, écoute, je pense...
Il y a qui est blessé à nouveau.
C'est ça. Écoute, je pense que c'est une équipe qui est affectée par les blessures, encore une fois. Je pense que ça va commencer à remonter bientôt, on l'espère. En tout cas, c'était déjà mieux la semaine dernière comparativement à la première semaine. Ben oui, je pense que c'est un gars qu'on garde, mais il faut juste être patient un petit peu. Mais c'est pas un gars que ça vaut la peine d'être shot tout de suite, là.
Fournette Jones, on en a parlé un peu.
On a parlé déjà un petit peu. Je pense que c'est un gars à garder encore une fois. Leonard Fournette, c'est un gars à aller chercher aussi. Puis sinon, ben, on va accélérer un petit peu le tout. Michael Gallup et Neil Harry. Gallup, je pense qu'il ne faut pas paniquer tout de suite. Oui, si l'hiver, en ce moment, est à prendre le dessus quasiment comme wide receiver 2 là, avec Amari Cooper comme wide receiver 1. Mais je pense que c'est une offense qui est tellement prometteuse, c'est une offense qui va tellement passer de temps sur le terrain que ça va aller chercher des points. Puis Neil Harry, dans le fond, les Pats sont après surprendre tout le monde avec Cam Newton. Il a été chercher 12 targets la semaine dernière, Harry. Je pense que c'est un gars qui va faire partie énormément de leur offense. C'est un gars à garder. Moi, je l'avais drop semaine 1 pour aller chercher un autre joueur. Tout j'ai tout de suite le recherché. En fait, j'ai drop Madison justement parce que bon, ça fitait plus ou moins dans mon line-up. Puis justement, j'ai été le rechercher parce que je pense que c'est un gars qui va donner une grosse partie de l'offense des Patriots.
Dans mes gardes, là, tu parles des Pats. J'ai gardé Sonny Michel parce que tu ne peux pas le dropper.
Ouais.
Puis tu ne peux pas l'échanger non plus parce que tu n'as rien en retour. Il n'y a pas peut-être avoir Max John Brown, je pense, en retour.
Exactement.
Ce qui m'inquiète, c'est que Cam Newton, c'est on niaisait l'autre jour que Lamar Jackson, c'est le running back 1 à Baltimore. Ben Cam Newton, c'est le running back 1 à New England. Rex Burkhead, on avait un peu oublié aussi à cause des blessures. Rex Burkhead qui est revenu dans le mix aussi, qui vient chercher des touches puis des catches. Fait que je garde Sonny Michel sur mon banc parce que, ben franchement, je ne sais pas quoi faire avec. J'espère juste qu'il retrouve un peu la touche puis qu'on lui redonne une charge de travail. Je peux te garantir que si jamais Sonny Michel a une excellente semaine, je vais essayer de le choper à quelqu'un qui a besoin d'un running back parce que c'est trop boomer boss pour moi sur Sonny Michel. Puis de ce temps-là, en fait, c'est bien pas mal plus boss que d'autres choses. Wide receiver, je garde Brandon Ayuk. Donnez-y la chance, c'est un rookie. San Francisco, ils ont de la misère avec leurs weapons, là, puis les blessures, puis tout ça. C'est un deep threat, il va faire des gros jeux. Il est peut-être même disponible sur les waivers. Si vous avez de la place, vous cherchez un wide receiver qui va avoir de la valeur, pas tout de suite, mais plus tard, moi, je garde Brandon Ayuk. Un autre wide receiver, c'est Steven Sims à Washington.
Ouais.
Un peu under the radar, Steven Sims, mais un plancher. Ça va, la COVID?
Ouais, ça... c'est beau, un petit quelque chose dans la gorge.
Steven Sims, qui a comme un plancher assuré, je pense, à toutes les semaines. C'est McLaurin, puis Terry McLaurin, puis Steven Sims, les deux wide à Washington. À date, c'est pas un gars que j'ai starté, mais dans les bye weeks, si j'ai besoin d'un flex, là, si j'ai des blessures, je pense que ça vaut la peine de le garder. Puis l'autre que je vais garder, c'est Mark Ingram, parce que Ingram, je viens juste de le recevoir dans mon trade avec McCaffrey.
Pas joué.
T'en penses quoi du backfield de Baltimore? Y a-t-il quelqu'un qui est startable là-dedans entre Dobbins et Ingram? De Gus Edwards qui est venu.
Ouais, ben c'est un backfield qui est bizarre.
Ouais.
Justement, le fait que, ben, que Lamar Jackson, c'est le running back numéro 1 de Baltimore, ça leur fait un peu mal. Mais sinon, écoute, Mark Ingram, J.K. Dobbins, je pense que c'est un backfield qui est dur de mettre quelqu'un comme starter. Je pense que tu ne te trompes pas nécessairement entre Mark Ingram et J.K. Dobbins de mettre un des deux comme flex, mettons. Peut-être que je tirerais un peu plus vers Ingram en ce moment pour le goal line. Bon, ça reste à voir, mais c'est un choix qui est dur. Mais Mark Ingram, ça vaut la peine d'être gardé dans ton équipe. On ne sait jamais s'il peut avoir des blessures dans ce backfield-là. Ça peut tout changer aussi.
Merci, ça me rassure. Hey, on va essayer de clencher ça parce qu'on va parler des joueurs qu'on vend. Toi, tu es plus joueurs qu'on drop, là, des joueurs qu'on se débarrasse. Ouais. Moi, je vais aller plus dans des joueurs que tu ne peux pas dropper, mais qui valent la peine de choper ou aller voir s'il y en a d'autres qui sont intéressés. Puis après ça, on va finir avec un petit... petite analyse du match de ce soir, mais toi, tu vends ton QB, le QB des Giants,
yeah,
Danny Dimes.
Yes, Danny Dimes.
Sur le podcast des Sportscasters au mois d'août qui voyait Daniel Jones comme un vol en fantasy.
Écoute, moi, personnellement, je l'ai drop, j'ai été chercher Ryan Tannehill. Écoute, je pense que les Giants, c'est tellement difficile cette semaine. On voyait des lueurs d'espoir un peu arrivées. Là, tu as la blessure à Barkley. C'est fini. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire avec cette équipe-là. Ben, pas qu'il n'y a plus rien à faire, mais je veux dire, au niveau fantasy, là, ben, tu as Sterling Shepard aussi qui a turf toe. Tu as vu Daniel Jones, je pense qu'il perd. Il perd des weapons après des weapons. Je pense pas que ça peut rien faire de bon pour lui. Mais ouais. Sinon, de Emmanuel Sanders. Écoute, s'il n'a pas réussi à se frayer un chemin dans cette équipe-là après le dernier Monday Night Football, écoute, c'était comme... Il fallait qu'il prenne sa place dans cette offensive-là. Il n'a rien été cherché. Je pense que c'est un flop complet. Je pense que c'est un gars que tu peux drop assez facilement. Scott Miller, même chose.
I was rooting for Scott Miller.
Ouais. Non, Scotty Miller, le Poopy Miller, il n'y a absolument rien à faire là-dessus. C'est un drop automatique. Puis Boston Scott, après la semaine que Miles Sanders a connue, je pense même pas que ça vaut la peine de garder ça dans ton équipe. Je pense qu'il y a d'autres choix sur les waivers que tu peux aller chercher qui valent beaucoup plus que Boston Scott en ce moment-là.
Moi, je vais juste pour des joueurs qui ont été repêchés quand même tôt, là, des James Conner, Todd Gurley, j'ai mis DJ Chark et DJ Moore. Tous des bons joueurs, que, évidemment, on ne parle pas des droppés, là, mais je pense qu'en ce moment, c'est le temps d'essayer d'échapper parce que Todd Gurley, il m'inquiète. Je pense pas qu'il va avoir un, comment je dirais bien, là, un awakening cette saison, là, que ça va débloquer. Puis que, je pense que ça va être pas mal cette production-là ou sur la pente descendante un peu. C'est pour ça que ça ne m'a pas dérangé un peu là, d'échanger Todd Gurley, que j'étais même pas sûr si je le startais ou si je le benchais toutes les semaines là, avec Mixon Sanders qui startait. Puis là, j'hésitais entre Robinson, Gurley, peut-être un autre. Todd Gurley puis James Conner qui est injury prone. Je pense qu'il n'en est pas à sa première dernière blessure de la saison. Ça, c'est deux running backs que je serais prêt à échanger si j'ai de la bonne valeur en retour. Puis côté wide receiver, même affaire. DJ Chark, je l'ai dans deux ligues. Il bench pour moi pour l'instant. Là, ce soir, il est out, il ne jouera pas. Mais beaucoup de jeunes weapons qui sont en train de faire surface à Jacksonville. Je pense qu'on ne peut pas avoir une production assurée à toutes les semaines de DJ Chark. Il va y avoir des semaines avec 95 verges puis 2 touchdowns. Puis la semaine après, ça va être 4 réceptions pour 63 verges. Et Keenan Cole et Chenault qui vont aller chercher des touchdowns. Et DJ Chark, s'il y en a qui cherchent des receveurs, même chose avec DJ Moore en Caroline, là, je pense qu'on peut essayer de vendre ça dans les trades. Là. Vendez les joueurs là, comme pas si c'est des wide receiver 1 ou low-end wide receiver 1, outside wide receiver 2. Mais si vous êtes capable d'aller chercher de la valeur en retour, ça serait des bons morceaux à bouger, je pense.
Oui, puis un autre que tu viens de mentionner, justement, LaViska Chenault, je pense que c'est un gars qui de plus en plus va prendre sa place dans l'offensive de Jacksonville. Écoute, autant comme porteur de ballon comme que de receveur de passe, là, c'est un gars assez intéressant à aller chercher, ça aussi. Là.
Fait que le spread ce soir, c'est 3 points pour... c'est en faveur Jacksonville. Les Dolphins sont plus 3.
Exactement.
Je vais mettre dans le ticker, je devrais lire le propre ticker que j'ai sur mon écran.
Ça s'en vient, là, ça s'en vient.
Ça s'en vient, Dolphins at Jacksonville.
Et voilà. Jack,
ouais, bon, OK. Ton pic, toi?
Jacksonville, je pense qu'ils vont dominer cette game-là. Ben, peut-être pas dominer, mais je pense qu'ils vont, ils vont gagner par plus que 3 points, c'est sûr, à 100%. Donc, je vais avec Jacksonville de deux côtés.
As-tu des joueurs qui sont fantasy relevant pour toi?
Ben, écoute, le Gardner Minshew qui est quand même très... En ce moment, il est relevant. Là. On va voir pour plus tard. Mais pour ce soir, je pense qu'il l'est. James Robinson, LaVisca Chenault, on a parlé tantôt vite, Keelan Cole, Chris Conley, parce que là, vu que DJ Shark n'est pas là cette semaine, je pense que du côté de Jacksonville, ça peut être intéressant. Puis sinon, ben, du côté des Dolphins, Mike Gesicki, qu'on a parlé tantôt, que tu as parlé comme tight end intéressant. Matt Breida, dans le fond, je ne pense pas qu'il va connaître une grosse partie ce soir. Mark Gaskin, ça va être très intéressant. Mais ouais, je pense que ce n'est pas nécessairement une grosse game avec des gros upside de fantasy. Mais je pense qu'au niveau des joueurs de Jacksonville, je pense qu'il y a plus de upside que du côté des Dolphins.
Mais tu sais, Minshew, vite comme ça, y a-tu un corps arrière qui te vient en tête que tu dis Minshew, je starterai avant? Il y a des starters habituels.
Ben, mettons, là, en ce moment, cette semaine, Minshew, si j'aurais Minshew à la place de Tannehill, ben je jouerais Minshew par-dessus Carson Wentz cette semaine.
Quoi?
Ouais.
Si t'avais Minshew à
la place... Parce que là, en ce moment, dans le fond, dans mon fantasy, j'ai Carson Wentz et j'ai Ryan Tannehill.
OK.
Fait que si j'avais pas Tannehill et j'avais Minshew à la place,
okay.
Ben je jouerais Minshew par-dessus Carson Wentz, pareil.
Mais mettons Minshew ou Drew Brees?
Écoute, je vais avec Minshew, man. Je vais avec Minshew.
Je pense que je fais la même chose. Hein?
Ouais, je pense que...
On hésite à cause du nom, à cause que c'est Drew Brees, mais...
Ben oui, c'est ça. Mais je pense qu'au niveau Upside Fantasy, cette semaine, je pense que Minshew vaut plus la peine avec Jacksonville. Là.
Minshew ou Deshaun Watson?
C'est un bon, parce que Deshaun Watson, attends, si je ne me trompe pas cette semaine, mais ça va être... c'est contre qui joue cette semaine, là? Houston? C'est un match-up difficile, si je ne me trompe pas, cette semaine.
Ouais, je ne me suis pas gardé l'horaire, je ne les ai pas toutes mémorisées. J'ai juste la game de la semaine passée.
Il est juste contre les Steelers. C'est ça, il est juste contre les Steelers. Fait que tu as vu Minshew, je pense que j'aurais Minshew en haut de Sean Jackson. Et Will Fuller qui a fini avec des zéros across the board la semaine passée.
Ouais.
Je pense que j'aurais Minshew par-dessus de Sean Watson cette semaine contre les Steelers.
Un top 10 play cette semaine?
Minshew, un top 10 play?
Ouais.
Je pense que
oui, Minshew, top 10 quarterback. Okay,
top 10 quarterback cette semaine. Minshew qui va dévorer la défense de Miami. Là. Encore une fois, un bold prediction.
Je pense qu'on peut dire que demain matin, Minshew, ça va être le number one carrière de la semaine.
Ouais, demain matin, ouais, ça risque d'être ça. Là.
On peut s'entendre là-dessus. à côté wide receiver, je me suis dit, tu en as parlé, mais Preston Williams, j'ai vu qu'il a été droppé dans plusieurs ligues. Droppable, c'est ouais. Isaiah Ford, là, qui est le nom qui ressort à Miami. Preston Williams aussi qui sortait tard et que les gens pensaient peut-être aller chercher de la grosse valeur. Difficile début de saison pour lui.
Oui, ben Isaiah Ford qui a été chercher 7 targets la semaine dernière. En fait, il a attrapé 7 passes la semaine dernière avec 76 verges. Je pense qu'il y a du bon upside pour lui. Mais si tu as vu du côté des Dolphins, je ne toucherais pas à grand chose. Même devant tes Parker. Tu sais, oui, il semble toucher la balle souvent dans l'end zone, mais il n'y a pas beaucoup de targets. Côté Dolphins, j'ai un petit peu de difficulté. Je vois beaucoup plus d'upside au niveau de Jacksonville. Là.
Ben, qu'à soir, on s'entend. Gardner Minshew, James Robinson, Mike Gesicki. Les autres, c'est vraiment des joueurs.
Ouais, ben, garder un œil sur la Visca Chenault, je pense que ça peut être intéressant. Justement, pour son upside au niveau de la course et de la passe. Garder un œil là-dessus. Mais encore là, c'est un rookie, encore une fois. C'est très dur comme prédiction. Mais oui, pour être sûr, Minshew, Robinson, puis Gesicki, c'est des bons noms pour ce soir.
All right. Ben, moi aussi, j'ai les Jags avec le spread. Je vais prendre les Jags up, straight up, puis le spread de 3 points. Yes. Je pense que Jacksonville va gagner ça. J'ai l'impression de dire à domicile, comme si ça changeait donc quelque chose cette saison. je prends les Jags pareil. Je suis content qu'on ait du Thursday Night Football, peu importe la game.
Yes.
Puis on va se faire un petit recap de ce match-là en essayant de faire peut-être un petit live dimanche. Je pense pas que tu sois disponible pour être avec nous dimanche.
Moi, malheureusement, je ne le suis pas.
Ah, mais si ça ne marche pas, on essaiera de se faire de quoi en début de semaine prochaine pour
je suis tout dans le
faire un petit follow-up sur les petites prédictions qu'on a faites pour la semaine.
Yes, sir.
Donc, on essaie de garder ça à une heure à peu près max là, pour nos épisodes. Donc, on arrive à peu près à ça. Ouais, 59 minutes et demie.
Ouais, 30 secondes.
Pile dessus. Fait qu'écoute, on est jeudi après-midi, là, il est 3h30, puis on a le temps d'aller faire notre petit setup pour le match de ce soir, faire nos petites affaires.
Yes, sir.
Écoute, une bonne game. Bonne fin de semaine.
Yes, toi aussi, bonne fin de semaine. Faites-en bien, écoute beaucoup de football.
Donc, merci à tous de suivre le podcast. On vous souhaite un bon Thursday Night Football. Merci. Salut, guys.
Ciao, Ben.